Vous êtes sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Les défis de la parentalité.
Les défis de la parentalité, épisode 5. Après les écrans, l'alimentation, la gestion des émotions et des sujets difficiles, place dans cet épisode à la question de l'orientation scolaire et de l'avenir de nos enfants. Comment préparer l'avenir professionnel de nos enfants? Le choix de son orientation scolaire et professionnelle n'est pas une chose facile à appréhender pour les adolescents et leurs parents. La question se pose à plusieurs moments de notre parcours scolaire, du passage de la troisième à la seconde ou bien à la fin de la terminale. Et si pour certains, l'avenir est déjà tout tracé, pour d'autres, c'est parfois le blackout total. Alors comment, en tant que parents, peut-on accompagner nos enfants vers le chemin de la réflexion? Nous avons posé la question à Clémence Nommé, psychologue spécialisée dans la parentalité et l'orientation, avec plusieurs cas de figure et notamment celui-ci. Et si mon enfant n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard? Écoutez Clémence Nommé.
Il faut être à l'écoute, montrer qu'on s'y intéresse parce que parfois il y a certains parents justement ils ont tellement peur de projeter et de faire les choix à la place de leur enfant. Ils vont dire alors là je sais pas du tout, je te vois dans rien de particulier, j'en sais rien, et ça peut angoisser pas mal l'enfant en se disant bah mince en fait il y a rien qui me correspond, mais pourquoi il trouve que rien m'irait? Et du coup voilà, faut être dans un équilibre un petit peu, en faisant des propositions, en donnant des idées, en restant ouvert aux idées aussi de l'enfant, être dans un échange, dans un partage. Donc pas mettre de pression mais montrer qu'on est intéressé et qu'on se questionne aussi.
Le dialogue est donc le maître mot, selon Clémence Nommé, mais attention toutefois à ne pas tomber dans le harcèlement, l'idée n'est pas d'en faire une obsession.
Ce qui est important déjà, faut pas braquer effectivement le jeune avec des questions incessantes, c'est plutôt montrer qu'on est là, on est à l'écoute, et puis proposer peut-être « Ah tiens, j'ai vu qu'il y avait un salon là de l'orientation, ça te dit qu'on aille ensemble, y faire un tour ?» Et après, je dirais que le salon, c'est un peu le premier pas. L'intérêt du salon, c'est plus de retenir les petites choses qui ont commencé à intéresser finalement le jeune, et après de pousser vraiment vers les portes ouvertes spécifiques de la formation pour qu'il aille dans le lieu, qu'il voit les autres étudiants, qu'il discute avec des jeunes, finalement avec des jeunes avec qui il pourra échanger plus facilement et se sentir plus à l'aise peut-être qu'avec ses parents, qu'il aille voilà à la rencontre d'un établissement pour aussi sentir une ambiance et avoir un ressenti lui en sortant, est-ce que je m'y suis senti bien? Est-ce que je m'y suis projetée? Ou est-ce que ça ne me correspond pas?
Les parents sont également invités à se tourner vers des équipes éducatives ou bien vers un proche avec qui le jeune se livre plus facilement. Et autre cas de figure, et si mon enfant choisit une voie professionnelle utopique? Devenir acteur, footballeur ou même influenceur, vos enfants ne seront pas les premiers et les derniers à nourrir ses rêves. Mais pas de panique, une fois encore, tout est dans le dialogue.
C'est de questionner le pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse dedans. Et puis on peut creuser peut-être des métiers qui pourraient y avoir autour, qui peut permettre au fil de temps de voir si peut-être ça serait possible dans l'avenir, mais de choisir une voie qui va lui permettre de rester ouvert, de pas se fermer de porte, pour lui faire prendre conscience qu'on n'est jamais sûr finalement sur ces filières-là, parce qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, et donc qu'il vaut mieux s'ouvrir à d'autres horizons. Et puis qu'en plus, il y a tellement une multitude de métiers, de possibilités, c'est d'essayer de leur ouvrir, en fait, sur d'autres horizons, du coup.
Écouter, échanger, respecter et encourager, voilà donc les clés pour aborder la question de l'orientation scolaire sereinement, peut-être aussi en s'y prenant plus tôt. Inutile d'attendre que ce soit l'heure de faire ses vœux sur Parcoursup pour s'y intéresser. Et pour rappel justement, Parcoursup, les terminales ont jusqu'au 3 juillet pour classer leurs vœux sur Parcoursup et jusqu'au 7 juillet pour accepter une proposition d'admission. C'est la fin de ce dossier sur les défis de la parentalité. Vous retrouvez évidemment tous nos épisodes en intégralité sur notre site internet en podcast. Très bonne écoute à tous.
Vous êtes sur 8FM avec moi. Une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Donc vous êtes François Truong et vous êtes donc co-créateur de Kidibam. Mais qu'est-ce que c'est alors Kidibam? Expliquez-moi dans vos mots.
Alors Kidibam, c'est une plateforme qui permet à tout le monde d'acheter ou de revendre des jouets de seconde main, donc des jouets d'occasion, avec une expérience qui est très différente de celle des traditionnelles plateformes de petites annonces. Nous, ce qu'on propose, c'est une expérience côté vendeur et côté acheteur qui est vraiment complètement réinventée. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous êtes parent et que vous avez vous avez des jouets à vendre. Alors généralement, vous n'avez pas un seul jouet, hein. Vous avez 20, 30, parfois 40 ou encore plus jouets que vos enfants n'utilisent plus. Si vous voulez les vendre sur une plateforme de petites annonces, vous allez devoir prendre 30 photos, rédiger 30 petites annonces, négocier avec peut-être une vingtaine de futurs acheteurs, les retrouver à la sortie du métro ou encore envoyer des colis par la poste. Donc c'est une expérience qui est assez longue et assez pénible côté vendeur. Et donc nous, ce qu'on propose, à contrario, ben, c'est quelque chose de très simple. En fait, vous vous rendez sur notre site internet, vous faites une estimation en 3 clics, vous avez ensuite le choix, soit on passe chez vous, récupérez vos jouets à domicile si vous habitez à Paris, soit vous les déposez dans un magasin partenaire en Île-de-France, soit partout en France, vous pouvez nous envoyer un colis Mondial Relais, on vous donne une étiquette, vous avez juste à la coller sur le colis et à la déposer dans le point relais le plus proche de chez vous. Donc côté vendeur, nous notre objectif c'est de permettre à chacun de vendre les jouets que ses enfants n'utilisent plus, mais de façon vraiment très simple, pour faire du bien à la planète, pour faire du bien à son portefeuille en arrondissant ses fins de mois, et aussi pour faire ça sans prise de tête et sans avoir à y passer trop de temps. Ça c'est côté vendeur. Et côté acheteur, si vous voulez acheter des jouets pour vos enfants ou pour les enfants de votre famille ou de vos amis, ce qu'on propose, ben c'est de la seconde main, mais avec une expérience qui est proche de celle du neuf, avec une expérience qu'on aime bien appeler de première classe. C'est-à-dire que vous allez avoir des jouets qui sont vérifiés, nettoyés dans notre atelier. Tous les jouets passent par notre atelier. On va les inspecter minutieusement, on va les nettoyer, on va les prendre en photo, on va les mettre en ligne. Et donc ces jouets, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, hein, vous n'aurez pas un puzzle où il va manquer une pièce, un jouet électronique qui ne s'allume pas, etc. Parce que tout a été contrôlé. Et ensuite, on va les mettre en ligne sur notre site internet avec une navigation qui se veut la plus intuitive possible, des belles photos produits, et vous avez toute la garantie que vous pouvez avoir quand vous achetez sur du neuf, c'est-à-dire des retours possibles, un service client qui répond tous les jours de la semaine, un paiement sécurisé, une livraison à domicile, etc. Voilà, on veut vraiment démocratiser, nous, la seconde main, en rendant l'expérience aussi agréable, finalement, que celle que vous pourriez avoir pour du neuf.
Alors moi j'ai plein de questions parce que moi-même j'ai des enfants, j'ai des jouets à la maison, mais alors honnêtement, moi ils sont jamais en très bon état une fois qu'ils ont fini de jouer avec, ils manquent des pièces, que ce soit du puzzle, ils ont cassé les mécanismes, en général je le reconnais, ça finit à la poubelle. Vous en fait vous prenez tous les jouets ou il faut quand même qu'ils soient en bon état, qu'il faut qu'ils soient complets, comment ça se passe ?
Alors nous, aujourd'hui, on reprend les jouets qui sont en bon état et complets. Et alors, ça veut dire qu'on peut pas reprendre tous les jouets que quelqu'un peut avoir chez lui. Mais on se rend compte que c'est quand même une manne déjà assez importante, en fait, parce que on a parfois des jouets en double, on a des jouets avec lesquels les enfants n'ont joué que quelques semaines seulement. Et donc, ça fait quand même un gisement de jouets assez important. Pour vous donner une petite statistique là-dessus, on considère qu'en France, il y a un jouet sur 25 qui est réemployé. Alors qu'il y a effectivement un jouet sur deux qui pourrait l'être, qui est en état d'être réemployé. Donc il y a un fossé énorme entre les jouets qu'on pourrait, si tous ensemble on se mettait à la seconde main, réutiliser, et ceux qui le sont effectivement. Mais nous, on va vraiment sélectionner ces jouets pour avoir quand même des jouets en bon état et complets. Après, il nous arrive évidemment de recevoir dans un lot quelques jouets qui sont pas dans l'état attendu ou espéré, et ça nous permet dans certains cas de compléter plusieurs jeux entre eux, puisqu'on va on va retrouver certaines références, donc on va utiliser certaines cartes d'un jeu pour en reconstituer un nouveau. Ça, c'est les choses qui nous arrivent de faire. Ou évidemment sur les Lego ou sur les Playmobil, on peut aussi reconstituer des lots qui sont pas exactement les lots d'origine, mais tout est très clair pour le client, tout est très transparent.
Alors du coup, vous parliez d'estimation, parce que moi typiquement je me remets dans mon rôle de parent, quand vous allez me demander d'estimer le prix, je vais mettre le prix auquel je l'ai acheté en fait. Est-ce que du coup il y a discussion entre la plateforme et les parents une fois qu'on a fait l'estimation, ça se passe comment ?
Alors non, vous n'avez même pas besoin vous de mettre le prix auquel vous l'avez acheté, hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste lister les jouets que vous voulez nous vendre, avec juste le nom du jouet et la marque si vous la connaissez. Éventuellement, vous pouvez ajouter une ou plusieurs photos. On vous demande pas de faire un shooting photo de vos jouets, hein, c'est juste une photo sur laquelle vous mettez tous les jouets que vous avez envie de vendre. Ça nous suffit pour réaliser. On a une grille très précise qui nous permet de réaliser une première estimation qu'on vous envoie. Si vous acceptez cette estimation, ensuite on va venir chercher vos jouets, ou alors vous allez les déposer ou vous allez nous les envoyer. Et ensuite, une fois que les jouets sont à l'atelier, on va vérifier qu'ils correspondent effectivement à ce qu'il y avait sur la liste, et on va vous envoyer une offre ferme. Mais généralement, hein, elle est identique à l'estimation. Parfois, elle est supérieure parce qu'il est fréquent que les gens nous ajoutent des nouveaux jouets et qu'on leur demande d'estimation. Puis entre-temps, ils vident toutes les chambres et ils se rendent compte qu'il y avait plein d'autres jouets qui qui était dormant également. Mais donc voilà, vous avez une première estimation qui peut être revue à la hausse ou à la baisse si jamais ça correspondait pas à la réalité. Mais l'idée, c'est que pour vous, ce soit vraiment extrêmement simple. Hein. On vous demande pas d'aller chercher le prix neuf ou ce genre de choses. C'est nous-mêmes qui allons le faire de façon en partie automatisée.
Du coup, l'atelier en soi, il fonctionne comment? Parce que vous récupérez les jouets et vous dites que tout passe dans votre atelier. Il y a combien de personnes qui travaillent? Il y a combien de petites mains et qui disent « bah, mais ils font quoi en fait ?» Ils vérifient vraiment les pièces ou ils les remettent en état? C'est de nouvelles boîtes? Ça se passe comment?
Alors aujourd'hui, on est 6 à travailler chez Kidibam. On travaille tous au sein de l'atelier. Les bureaux sont au sein de l'atelier. Au moment où je vous parle, je suis entouré de jouets. Et ensuite, on a une personne, Romain en l'occurrence, qui est juste en face de moi, qui est notre responsable d'atelier, donc qui est en charge vraiment d'organiser la vie des jouets entre le moment où ils arrivent à l'atelier et le moment où ils en partent. Donc de les vérifier, de les nettoyer, de les mettre en rayon, etc. Et évidemment, il est aidé dès qu'il y a des périodes de temps fort. Pour Noël, par exemple, on va avoir du renfort saisonnier pour préparer les commandes ou faire rentrer le stock, puisque évidemment, vous doutez, c'est une activité qui est assez saisonnière. Et là, on est vraiment en train de pendant l'été de préparer le prochain Noël.
Et alors, du coup, ça fait combien de temps que Kidibam existe?
Alors, Kidibam a été lancé en septembre dernier. Donc, Kidibam a aujourd'hui 10 mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un premier test à Noël 2022. Donc, avec mon cofondateur Théo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu vérifier d'abord, avant de se lancer pour de bon, qu'il y avait un intérêt de la part des parents pour vendre et acheter des jouets de seconde main. Donc, on a loué un vélo cargo, on a loué des places de parking. Donc, voilà, on a vraiment commencé dans un garage pour le coup. Et nous-mêmes, on est allé collecter des jouets chez les parents. On n'avait même pas de site internet au tout début. Donc, on postait des annonces sur des groupes Facebook. Papa du 12e ou maman du 20e. Et il y a plein de parents qui nous disaient « Moi, j'ai des jouets à vendre, ça m'intéresse, votre service. » Donc, on allait les collecter chez eux. Ça nous a permis, en quelques semaines seulement, d'arriver à près de 1000 jouets en stock dans notre parking. Et derrière, on les a mis en ligne. Et en quelques semaines seulement, on en a vendu la moitié. Et donc, à partir de là, à partir du mois de janvier, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à comment passer ce modèle à l'échelle. Quelles étaient les contraintes? On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux technologiques, notamment, pour faire en sorte que très rapidement, on puisse mettre en ligne des jouets. Donc, on a créé tout un tas d'outils qui nous permettent de reconnaître un livre, reconnaître un jouet et pré-remplir plein d'informations sur son titre, sa marque, l'âge conseillé, le prix neuf constaté sur Internet, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace. On a réalisé une levée de fonds au mois de mai dernier auprès d'investisseurs, notamment de Business Angel, qui ont eux-mêmes lancé leur entreprise par le passé. Ça nous a permis de recruter une équipe, de déménager dans un vrai atelier, mieux que notre garage initial, et aujourd'hui de commencer à accélérer. Et là, on a pour objectif d'avoir 10 000 jouets en stock au moment de Noël. Donc là, toutes les semaines, il y a des dizaines et des dizaines de parents qui font appel à nous pour vendre leurs jouets. Donc ça s'accélère pas mal depuis les dernières semaines. Tout ça dans l'objectif du prochain Noël, qui est vraiment le temps fort pour nous.
Ma dernière question, donc entre là, ça sera plutôt côté acheteur. Donc là, moi, je suis acheteuse, je veux acheter un jouet donc qui est en très bon état, qui a été vérifié par vous, donc j'ai confiance. Mais côté prix, quelle différence on va avoir entre le neuf et du coup le reconditionné bon état? Est-ce que vous avez une moyenne de combien moins cher en pourcentage on l'achète?
Alors en moyenne, nos jouets de seconde main sont vendus deux fois moins cher qu'un jouet neuf. Et ensuite, ça va varier en fonction de l'état. On a différents états sur le site. On a des jouets qui sont vraiment comme neufs, d'autres qui sont en très bon état, en bon état, ou qui sont dans la catégorie braderie pour les jouets qui ont un peu plus vécu que les autres, on va dire. Et en fonction de ça, on va déterminer le prix de vente par rapport au prix neuf. Mais en moyenne, c'est deux fois moins cher que le neuf.
Mais donc, de ce que je comprends, même si c'est braderie, dans tous les cas, on peut l'utiliser. C'est complet. Si c'est un puzzle, ça va être peut-être un peu élimer les pièces, mais il y a toutes les pièces, c'est ça?
Exactement. Ça va être un petit défaut esthétique, mais qui n'empêchera pas du tout de jouer et de s'amuser avec ce jouet-là. Et peut-être autre chose que je peux ajouter, c'est qu'en fait, nous, notre mission chez Kidibam, c'est vraiment de redonner vie un maximum de jouets, à des milliers, à des millions, j'espère, de jouets qui ont déjà été aimés. Ça, c'est notre mission. Mais en faisant ça, on veut aussi contribuer à sensibiliser à la fois les parents et les enfants aux enjeux environnementaux, parce que le jouet, c'est vraiment le premier objet auquel vous pouvez vous attacher, le premier objet dont vous allez peut-être avoir des souvenirs une fois que vous aurez un petit peu vieilli. Et donc, c'est très important de se dire que dès le départ, en fait, je vais apprendre en tant qu'enfant que, ben oui, le jouet qu'on m'a offert à Noël, il a peut-être déjà été aimé par d'autres enfants avant moi. Et ça peut même contribuer d'ailleurs à développer un imaginaire, un récit autour de ce jouet-là. Et que, à contrario, à l'inverse, les jouets que j'utilise plus, mais avec lesquels j'ai bien aimé m'amuser pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, eh ben ils vont partir dans d'autres familles. Donc je vais apprendre voilà qu'un objet peut avoir plusieurs vies. Et peut-être que demain, après avoir eu cette première expérience avec les jouets, ben j'aurai aucun problème à aller acheter de l'électronique de seconde main, des vêtements de seconde main, du mobilier de seconde main, etc. Donc on est persuadé que au-delà de notre mission qui est de redonner vie à un maximum de jouets déjà aimés, on a aussi un rôle à jouer pour sensibiliser les parents et les enfants aux enjeux environnementaux.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. We were two broken parts from the same junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So come here close for the last time. But it shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Les défis de la parentalité.
Et épisode 4. Aujourd'hui, on aimerait laisser nos enfants jouer, s'amuser, ne se soucier de rien. Pourtant, parfois, la vie prend une tournure plus grave. Maladie, décès, séparation, guerre. Comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cochère, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et que ils sont beaucoup plus sensibles au langage émotionnel qu'au langage en lui-même, hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension du langage. Hein. Le bébé, c'est un être d'interaction. Hein. Donc, très tôt, si, par exemple, une maman ne va pas bien et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah, le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce qu'il ne peut pas engager de relation. Donc, très tôt, les enfants, comme ce sont le petit humain, c'est un être de communication. Donc, en fait, il ne cherche que ça, hein. Il ne cherche que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé, il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile, hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement et souvent je leur dis, ah bah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que bah c'est on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien. Mais que il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. Ben, on est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup beaucoup de valeur pour l'enfant. C'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage. C'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche, hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est En fait, c'est multimodal. Hein. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, bah oui, aujourd'hui maman arrive plus tard, tout ça c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui d'un côté pourrait être très stressante parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui il est toujours là, si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, bah il va avoir appris que, ben oui, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple, quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, ben on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Ben, de toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel et puis qu'on est, on grandit, on devient adulte et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, bah c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Et puis, lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très, très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être... Ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent... Les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques. Alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça et... Un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais il y a quand même une génération, il y a la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Quand il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent non, on ne va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. C'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Hein, quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Après, se dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant et surtout éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparé. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Il faut éviter les conflits de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. S'il se passe quelque chose à l'école. Alors, vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont vu. À ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cocher. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Wasted in love. Misunderstood, baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them in my hands, pictures of you. Dream of the day you were 8 and 2. That
La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Alors donc, du coup, je vous présente en tout cas comme Jean Moreau, fondateur de Phoenix.
Oui, c'est bien ça.
Du coup, Phoenix existe depuis 2014 ou je me suis trompé?
Non, c'est ça. Phoenix a été créé en mars 2014, très exactement, donc il y a un peu plus de 9 ans maintenant.
Moi, j'ai une première question, justement, parce que j'ai vu que vous étiez banquier d'affaires et que vous aviez lancé Phoenix. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose qui est chevillé à votre corps, cette volonté de se battre contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi?
Effectivement, donc moi j'ai commencé ma carrière dans la finance traditionnelle. J'étais même dans une banque d'affaires américaine où je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions. Donc un métier très intense, assez prestigieux aussi et très axé sur l'économie, la finance, les gros groupes du CAC 40. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. J'étais pas malheureux, mais je trouvais que mon quotidien, mon métier manquait de sens. Et j'aspirais à créer une boîte, une entreprise qui apporte quelque chose à la société et à la planète et qui fasse tourner le monde dans une meilleure direction, disons. Donc j'ai quitté le confort et les salaires, les bonus de la finance pour, à 30 ans, partir à zéro. Et créer Phoenix en me disant on va connecter ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Et on va essayer de créer une entreprise un peu hybride qui a à la fois la volonté d'avoir de la croissance, de créer de l'emploi comme une start-up classique, mais qui en même temps a un petit supplément d'âme qui est la mission anti-gaspillage et solidaire. Et donc voilà, ça a marché presque mieux que prévu, mais tant mieux pour tout le monde.
Et mais pourquoi le gaspillage alimentaire? Est-ce que vous auriez pu vous orienter vers plein de choses? Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le gaspillage alimentaire?
Eh bien, la vérité, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est très complet, puisqu'il y a à la fois un enjeu environnemental. C'est pas très connu, mais si le gaspillage était un pays, ce serait le troisième contributeur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on a la nourriture produite, transportée, et qui en fin de chaîne est détruite ou incinérée, elle dégage beaucoup d'impact carbone. Donc, on a un gros pilier environnemental. Il y a évidemment, la deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un pilier social, puisqu'on a un rôle de Robin des Bois. On récupère les invendus chez les usines, dans les magasins, les hypermarchés, les commerces de proximité, et on les redistribue soit au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à l'aide alimentaire classique, soit dans des paniers anti-gaspillage aux consommateurs. Donc on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs fragiles. Donc on a un vrai impact sociétal, et dans la période d'inflation, c'est plus que nécessaire. Et puis il y a un volet digital technologique, puisque pour faire tout ça, on a créé une application mobile, l'application Phoenix, et une plateforme pour digitaliser l'aide alimentaire et faire en sorte que les dons se fassent de façon fluide. Donc voilà, tout ça fait que c'est un projet qui, à mon avis, est super complet et qui est aussi dans l'air du temps. On a du vent dans les voiles avec toute la dynamique zéro déchet, anti-gaspille, économie circulaire, et aussi malheureusement avec l'actualité brûlante sur l'aide alimentaire, la dynamique inflationniste, la quête de pouvoir d'achat. Donc voilà, on pense que la société qu'on a créée, elle est utile et de plus en plus utile, et qu'elle constitue un peu un modèle aussi pour la façon de réinventer le rôle de l'entreprise dans la société.
Moi, j'avoue que je trouve ça assez impressionnant, tout ce que vous avez développé, parce qu'en effet, vous dites l'application, donc là, c'est pour les particuliers, vous avez aussi une plateforme pour les associations, et vous aidez aussi les animaux et les parcs animaliers. Avec tout ça, comment ça se fait qu'il y a encore, entre guillemets, du gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est les industriels qui jouent pas le jeu? Pourquoi?
On fait trois choses, nous, on récupère les invendus, et puis après, notre métier, c'est de le donner à des assos, à des consos ou à des animaux. Et on pense que c'est cet ensemble de solutions, les trois filières de deuxième vie réunies, qui font qu'on arrivera vraiment au zéro déchet, zéro gaspillage. Donc les consommateurs, c'est sur une application mobile pour acheter des paniers à prix cassé. Les assos, ce sont les collectes alimentaires des invendus traditionnels. Et puis ce qui n'est pas consommé ni par des humains, des consommateurs sur l'application, ni par des assos caritatives, c'est proposé à des animaux, donc la SPA, un centre équestre, un parc animalier, un zoo. Et donc les excédents de nourriture vont nourrir les bêtes plutôt que la poubelle. Donc on trouve que c'est du bon sens. Et pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi il reste encore du gaspillage? Parce que parfois c'est encore trop perçu comme un sujet qui est pas un sujet prioritaire. C'est un sujet sympa, sexy, qui donne du sens, mais qui est pas dans le cœur de métier d'un grand magasin, qui est pas au cœur des processus d'une usine. Et donc il faut qu'on arrive à remonter un peu la chaîne de valeur stratégique et qu'on explique aux décideuses et aux décideurs que non, c'est un projet dorénavant qui est central. Pour la planète, pour la société et pour tout ce qui est attendu par les consommateurs et les politiques. Et donc voilà, ça c'est notre métier de prêcher la bonne parole. Et donc c'est pour ça que des émissions de radio comme la vôtre ou des journées anti-gaspi comme celle du 29 septembre nous aident à prêcher la bonne parole et à porter ce combat anti-gaspi zéro déchet.
Quand vous dites les décideurs, c'est que il y a pas assez de volonté étatique aussi, c'est pas un sujet qui est central pour le moment.
Alors on a quand même été bien aidé, pour être honnête, par la puissance publique, puisqu'il y a deux choses qui nous aident. La première, c'est qu'il y a une loi anti-gaspillage qui interdit de détruire des invendus encore consommables. Donc avant, ce qui se passait parfois, c'est que les invendus, à partir de J-3, J-2, étaient sortis des rayons et puis ils étaient javelisés. On mettait un peu de javel dans la poubelle pour pas qu'il y ait de glanage par les SDF du coin. Et ça, c'est devenu interdit. Et donc c'est passible d'une amende qui va jusqu'à 10 000 euros par infraction. Donc il y a vraiment le bâton réglementaire, la loi qui interdit de jeter. Après, elle est plus ou moins respectée sur le terrain, mais en tout cas, les politiques ont fait le boulot, disons. À côté de ça, il y a un deuxième dispositif en miroir, qui est pas un bâton, qui est plutôt une carotte. C'est une carotte fiscale. Et si les usines, les magasins, les industriels jouent le jeu et donnent des invendus aux associations d'aide alimentaire, ils sont éligibles à une réduction d'impôt. Et c'est 60% de la valeur du don qui est défiscalisable. C'est un peu comme pour les particuliers. Donc tout ça pour dire que l'État a quand même joué son rôle avec ce cadre réglementaire qui est incitatif et contraignant. La loi anti-gaspi et la fiscalité avantageuse. Et nous, ça nous a aidé à démarrer et à décoller aussi. Mais on pourrait aller encore plus loin. Et donc, c'est bien si les consommateurs mettent la pression sur les réseaux sociaux. C'est bien quand les médias mettent de la lumière sur ce sujet. C'est bien aussi quand les associations caritatives prennent la parole, comme ça a été fait par le président des Restos du Cœur, haut et fort. Ça remet l'église sur la place du village. Donc voilà, chacun doit jouer son rôle et le combat n'est pas fini.
Et justement, quand vous dites le combat n'est pas fini, en l'état, on en est où? C'est quoi un peu l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France? Est-ce que ça réduit? On a des chiffres?
Alors en France, on considère que c'est à peu près 10 millions de tonnes de gaspillage par an, c'est les chiffres de l'ADEME. Ça correspond à peu près à 16 milliards d'euros de valeur de produits. Et au niveau du consommateur, pour que ce soit plus parlant, le gaspillage, c'est quoi? C'est 70 euros de courses jetées chaque mois, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gaspillage chez les consommateurs, dans les frigos, les yaourts périmés au fond du frigo, les fruits qu'on laisse un peu pourrir dans le bac à fruits, une conserve qu'on a ouverte et qu'on a à moitié terminée. Et donc ça, pour que les auditeurs se rendent compte, c'est 70 euros par mois et par foyer. Et donc ça fait quasiment 850 euros à l'année. Donc c'est aussi pour dire qu'en période d'inflation, et quand tout le monde cherche un peu des économies pour pouvoir payer les factures d'énergie et d'essence qui explosent, l'anti-gaspi, c'est le bon vieux réflexe qu'avaient nos grands-parents d'accommoder les restes, de garder un peu de jugeote par rapport aux dates de péremption, de redécouvrir certaines recettes, ça, il faut que ça revienne parce que ça permet d'économiser quasiment presque un SMIC à l'année quand on fait les choses bien.
Mais ça me permet d'embrayer sur justement le lancement de ce livre avec des recettes anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment ça a émergé, ce projet?
C'est un projet qu'on a déjà en tête depuis quelques mois. Et donc, on a voulu créer un guide de recettes à la fois anti-gaspi et à petit prix, pour montrer que la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est évidemment vertueuse pour la planète, mais elle est aussi vertueuse pour le porte-monnaie, et que on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, en retrouvant d'un côté le goût de la cuisine, retravailler des restes, être un peu inventif dans la façon dont on conçoit ses repas, et en même temps, c'est bien pour le porte-monnaie, puisque en faisant ça, on économise, comme je l'ai dit, quasiment 70 euros par mois et 850 euros à l'année. Donc c'était tout l'esprit de ce livre, donner des recettes pour les Françaises et les Français qui veulent cuisiner et se nourrir un peu différemment avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et donc on a presque une cinquantaine de recettes qui vont du velouté d'asperges avec des queues d'asperges, à la tarte tatin d'échalotes, à des soupes de fan de radis, à des glaçons aux herbes aromatiques. Voilà, on a essayé d'être assez large dans la palette et on l'a fait avec quelques clients qui s'engagent avec nous et qui voulaient aussi donner leurs bonnes astuces.
Mais du coup, il y a eu un chef cuistot qui vous a aidé à élaborer des recettes?
Non, on a concerté plusieurs, on s'est inspiré de certaines choses, mais on a essayé de revisiter des recettes traditionnelles sous l'angle anti-gaspi. Donc c'était plutôt du travail interne et des suggestions des gens de Phoenix, des 200 phéniciens et puis de nos clients.
Et j'ai une dernière question. Alors là, c'est plus pour moi aussi pour comprendre, parce que j'ai déjà fait aussi l'interview de Too Good To Go, donc eux, c'est plus seulement sur votre format application avec produits pour des paniers pour les particuliers. C'est quoi la différence entre vous deux? Est-ce qu'il y a une concurrence ou même pas? En fait, vous jouez le jeu et votre but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Alors il y a on est deux acteurs sur le secteur, sur ce segment-là. Donc il y a une forme de concurrence, mais on est comme dans un secteur où on est plus dans la collaboration pour la même lutte que dans la concurrence frontale et agressive. Mais en gros, nous on est une entreprise française, Tougou est une entreprise danoise. Ça c'est une première différence. Nous on est made in France et on le revendique. La deuxième chose c'est que comme vous l'avez dit, nous on marche sur deux jambes. On a l'appli anti-gaspi pour les consommateurs. Et on a surtout aussi la face immergée de l'iceberg, qui est le don aux associations caritatives. Et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cannibalisation. Et parfois, quand on fait trop de paniers anti-gaspi, il ne reste plus grand-chose en fin de chaîne pour l'aide alimentaire. Et comme nous, on a ces deux leviers, on essaie de mieux équilibrer les flux, là où d'autres peuvent être un peu plus inéquitables, quoi, disons. Et après, la vraie différence aussi, c'est l'offre. Donc, on retrouve chez Tougou des commerçants qui ne sont pas chez Phoenix. Et vice versa. Donc c'est un peu le même combat que Uber Eats versus Deliveroo ou Deezer contre Spotify. Voilà, il y a deux gros acteurs et on se challenge. Et puis les gens, souvent on a beaucoup de consommateurs qui ont les deux applis et qui basculent de l'une à l'autre en fonction de l'offre, des codes promotion, des discounts, etc. Donc on est dans le même bateau et avec chacun ses petites spécificités.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Le Zoom Info.
Le CHU de Bordeaux a lancé hier une campagne de mécénat à destination des entreprises, associations, fondations, mais aussi particuliers. L'idée est de pouvoir concrétiser des actions pour assurer un meilleur confort des patients lors de leur hospitalisation. À l'image du projet de création de deux salles de classe pour l'école de l'hôpital des enfants, en place depuis 1992, chaque année, ce sont plus de 1000 enfants du primaire au lycée qui sont pris en charge par 8 enseignants spécialisés de l'éducation nationale, essentiels pour Eva, 14 ans, atteinte d'une maladie génétique, qui est parfois hospitalisée plusieurs jours pour suivre son traitement.
À cause des hospitalisations, on perd de notre niveau scolaire. Et du coup, après, c'est compliqué de reprendre quand ça fait longtemps qu'on n'est pas à l'école, surtout pour les matières compliquées. Donc, je trouve ça cool qu'on puisse continuer d'apprendre, même à l'hôpital.
Mais dans des conditions pas toujours optimales, comme nous l'explique Laetitia Gilles-Million, professeure des écoles spécialisées.
On fait l'enseignement au chevet des enfants, c'est-à-dire qu'on va dans leur chambre et on fait classe individuellement. Quand ils vont assez bien, on peut les mettre un petit peu en salle à manger pour essayer de regrouper 2-3 enfants.
Difficile dans ces conditions d'être concentré.
En chambre, non, c'est sûr, surtout qu'ils ne la quittent pas beaucoup leur chambre. Ils sont assis sur leur lit, ils ont les sollicitations, leurs jouets, éventuellement des écrans. Parfois, ils sont en chambre double. Et quand ils sont en salle à manger, il y a beaucoup de passages.
La création de ces deux salles de classe, une pouvant accueillir 30 élèves et l'autre 15, sera une véritable bouffée d'air frais pour l'apprentissage, mais aussi un plus pour accélérer la guérison de ces petits patients, selon Anne Dumas Lossinotte, cadre de santé en pédiatrie et l'une des porteuses du projet.
Un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un enfant qui ne va pas bien. Du coup, pour nous, soignants, ça sera un plus que cet enfant dans la journée ait ses temps à l'école, non seulement parce qu'il va sortir de sa chambre, parce qu'il va pouvoir rencontrer d'autres enfants. Donc en fait, de sortir de ce lieu de vie, ce lieu de soins, ne peut que lui apporter du plus. S'évader, ça permet de mieux guérir.
Les travaux devraient débuter dans les prochains mois au sous-sol de l'hôpital des enfants. L'ouverture des deux classes est fixée à la rentrée 2025.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
Le Zoom Info.
Vous ne verrez plus les eaux usées de la même manière. Bordeaux Métropole inaugurait hier l'unité de biométhanisation à la station d'épuration Clodehilde à Bègles. En action depuis le mois de mars, voilà comment elle transforme les eaux usées en biogaz. Explication de Guillaume Bain, responsable d'exploitation de la station d'épuration de Bègles.
Dans les eaux usées, on retire un certain nombre de déchets. Une partie de ces déchets-là, ce qu'on appelle des boues d'épuration, vont être introduits dans un digesteur. C'est un énorme ouvrage. Donc des bactéries vont venir dégrader cette cette matière qu'on a introduite. Et le produit de cette dégradation, c'est le biogaz.
Une fois purifié, le biogaz est injecté dans le réseau gaz de Bordeaux Métropole, logements à basse consommation, écoles ou encore bâtiments administratifs bénéficient depuis maintenant 6 mois de cette énergie renouvelable pour leur chauffage.
À terme, on pourra dégager 300 gigawatts. Et ça représente tout simplement à l'année l'équivalent de 8000 foyers.
Pour répondre à l'enjeu écologique avec cet investissement, Bordeaux Métropole veut pérenniser cette initiative. Sylvie Cassouscott, vice-présidente eau assainissement de Bordeaux Métropole.
Nous avons ambition dans ce plan climat énergie de déployer au maximum tout ce qui est possible de faire. À l'horizon 2026, notre projet c'est d'optimiser les 6 stations d'épuration qui sont donc dans un maillage territorial de Bordeaux Métropole, de pouvoir optimiser ces 6 stations pour pouvoir produire cette énergie.
Et à terme, pouvoir alimenter une majorité de foyers et bâtiments de la métropole bordelaise à l'aide de ce biogaz. Des eaux usées en tout cas qui inspirent, puisque la station d'épuration de Cantinol à Aisines s'est équipée d'une unité qui permettra, lorsque le gouvernement l'autorisera, d'utiliser les eaux usées pour arroser les plantations agricoles ou encore nettoyer la voirie et ainsi ne plus utiliser d'eau potable.
Chaque nuit, on passe de bons moments ensemble sur 8FM, mais il est temps pour moi de vous quitter jusqu'à demain. Bonne fin de nuit.
C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. J'ai le bras long, elle me donne sa main. C'est ma jolie madame, même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher, mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps, elle me parle d'amour, elle fait j'aime tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. Oh, oh, oh. Fais-en un, j'arrive et tout s'éteint. Tout est plein, tout est plein. Fais-en un, j'suis pas au Malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler. Je suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça.
Me parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.
c'est 8 FM.
I can do this with my eyes closed.
From the dead, from the back of my head, been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair, been taking every whip and word I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze. With my eyes closed.
Turn up the lights.
I can do this with my eyes closed.
Turn up the lights.
Less medications, less manifestations, mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I've bled, I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces, killed and resurrected, cause I'll never be dead. This is tomorrow's never promised, honest. Yeah, they say piranhas are among us. Lock me up in the maze. With my eyes closed.
Turn up the lights.
I can do this with my eyes closed.
Turn up the lights.
I can do this with my eyes closed. And when the day broke, buried in violence, something.